Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La sortie longue sert-elle vraiment à quelque chose et est-elle vraiment indispensable? Eh bien, c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de running, de trail, de lifestyle sportif, du bonheur de courir, de retrouver du mouvement, de mettre du mouvement dans sa vie, et pas forcément seulement en courant d'ailleurs, parce que vous allez voir au fur et à mesure des épisodes qui vont venir, on va parler aussi un petit peu d'autres disciplines, ou en tout cas de petites variantes. Je vous l'ai dit, déjà je prépare un swimrun, donc déjà on va rajouter un petit peu de natation, et puis on va aller voir un petit peu quelles sont les différentes variantes, mais ça je vous en parlerai au fil des épisodes. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons parler, oui, de la sacro-sainte sortie longue. Elle est présente dans tous les plans, recommandée par tout le monde, vraiment, ça vient des pros, des stars du domaine, et souvent c'est la sortie, vous savez, du dimanche, cette longue sortie dont on revient avec les jambes raides et qui nous donne envie de faire la sieste tout l'après-midi parce qu'on en revient épuisé. Mais finalement, sert-elle à quelque chose, cette sortie longue? Eh bien, je me suis posé cette question et j'ai fait des recherches aujourd'hui pour vous. Et je vais vous donner un petit peu le ressenti, le sentiment, et aussi ce que ça m'a apporté comme réflexion sur finalement les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, notamment au niveau des blessures, de la fatigue, et ça explique aussi un petit peu pourquoi je me sens mieux en courant plus souvent dans la semaine plutôt qu'en faisant des grosses sorties longues. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous remercier vous tous. Alors vous remerciez d'abord pour ceux qui financent le podcast par biais de Patreon. Vous savez que en donnant à partir de 1 euro par épisode, puisque maintenant ça passe en euros Patreon, et ben vous bénéficiez des épisodes sans la pub, plus de mon journal d'entraînement privé. Moi ça m'aide à financer ma vie sportive, voilà, à construire mon rêve de devenir sportif, on va dire à temps plein, voilà, après avec différentes formes que ça peut prendre, mais en tout cas c'est ce qui m'aide à construire mon rêve d'enfant que je poursuis avec les baskets au pied. Je vous remercie aussi beaucoup pour les commentaires que vous laissez, notamment sur Apple Podcast. Alors, je vais remercier notamment Eric, alors qui me fait rire parce qu'il a mis Eric Team T-shirt coton, qui dit « Un grand bonheur de retrouver Bertrand à chaque podcast où il nous partage avec simplicité sa façon de vivre le running. Pour ceux qui aiment Bertrand, fait aussi de jolies photos, alors suivez-le sur Instagram ou Strava pour rajouter l'image au son. » Oui, merci effectivement de rappeler que vous pouvez me retrouver sur Strava. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode parce que là c'est compliqué de vous donner mon nom, mais vous cherchez Bertrand Soulier, vous allez me trouver assez facilement. Et sur Instagram, @BertrandSoulier. Je vous remercie d'ailleurs pour les dédicaces que vous faites sur Instagram. C'est-à-dire que quand vous partez courir, quand vous écoutez le podcast, alors où que ce soit, si vous trouvez que la vue est belle ou si vous trouvez vous êtes bien, vous pouvez me faire une petite dédicace en disant tiens, j'écoute le podcast à tel endroit où j'ai fait telle sortie. Vous mettez @BertrandSoulier dans une story, par exemple sur Instagram ou dans un post, ou alors vous mettez le hashtag KM42podcast, et moi je vois passer ça, je vous fais un petit message, je repartage ça, ça vous fait un petit coup de pub aussi si vous le voulez, et on montre à tout le monde quel est notre bonheur d'aller courir. Et j'ai vu des photos, notamment avec des photos de lever de soleil, vous savez que je suis adepte de la course au lever du soleil, j'ai vu des belles photos de lever du soleil, j'ai aussi vu des belles photos du coucher de soleil, et puis bon, il y a des moments où les paysages par eux-mêmes, vous m'avez envoyé des photos de paysages qui sont tout simplement magnifiques et je voudrais vraiment, vraiment vous en remercier. Et puis, je vous rappelle aussi que le Hamsters Running Club se développe petit à petit. On discute de plein de sujets, on s'encourage, on se conseille. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous précise juste qu'il n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook, il est absent de Facebook. Il est sur un outil dédié, voilà, où on est seul dans notre monde à nous. Il n'y a que les gens qui font partie, il n'y a que les Hamsters qui en font partie. Et vraiment, l'idée du Hamsters Running Club, je vous rappelle que j'avais lancé ce concept de dire, en fait, le hamster, il tourne dans une roue qui n'est pas la sienne et à un moment donné, il va s'évader. Moi, c'est le sentiment que j'ai, en fait, depuis que je me suis remis à courir, à manger mieux. C'est pour ça que c'est vraiment lifestyle sportif, le mode de vie plus sain au sens large, et vraiment à construire d'autres choses, parce que ça donne plus de confiance, ça donne plus de confiance dans son corps, dans sa tête, dans ses capacités, dans ce qu'on veut faire. Et puis petit à petit, on se rêve à faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, se lancer dans de nouvelles choses, mais on sait pas trop comment le faire. On a besoin de conseils. Alors certains, par exemple, c'est des conseils pour commencer à courir, d'autres c'est pour choisir des chaussures, d'autres pour se lancer dans des nouveaux objectifs, pour s'organiser, etc. Et en fait, on se retrouve tous dans le Hamster Zoning Club pour discuter de tout ça. Et puis moi, après, je vais agrémenter ça au fur et à mesure avec des petits contenus exclusifs qui vous permettront aussi de progresser et d'aller plus loin. Et puis, bien entendu, il y a les conseils de tout le monde, parce que dedans, il y a des coureurs qui sont plus ou moins aguerris. Il y en a certains qui ont fait des grandes distances, certains qui débutent. Et c'est ce qui fait finalement une ambiance qui est super sympa, parce qu'on partage beaucoup, beaucoup d'informations comme ça. Donc, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode pour venir rejoindre le club et découvrir ce qui s'y passe, en vous rappelant un élément qui est essentiel, c'est qu'on y va avec bienveillance et que tout ce qui est dans le club reste dans le club. Bon, maintenant il est temps de passer au sujet du jour et la fameuse sortie longue. Alors oui, la sortie longue c'est un mythe sacré, vraiment le mythe sacré, adopté par les sportifs de haut niveau dans les années 60, d'après mes recherches. Vous ne trouverez pas un plan d'entraînement pour une course sans sortie longue. En fait, la sortie longue ne se discute même plus, on va dire, ça fait partie du dogme du coureur. Coureur tu es, sortie longue tu feras, j'ai envie de dire. Dans ce travail, il y a même un type d'entraînement spécifique, sortie longue. Alors il y a course, entraînement et sortie longue. Et là, l'autre jour, j'ai tilté. Mais quand est-ce que ma sortie longue est une sortie longue et quand est-ce que je dois considérer que j'ai fait une sortie longue ou pas une sortie longue? Est-ce que une heure de footing en endurance mentale est finalement une sortie longue ou est-ce que c'est un entraînement? Qu'est-ce qui est un entraînement? Qu'est-ce qui est une sortie longue? Ma sortie trail de 2 heures de la semaine dernière, oui, c'est une sortie longue, mais mon footing de 1 heure en endurance mentale de mercredi dernier en enregistrant le podcast, était-ce un entraînement, une sortie longue ou était-ce finalement un petit footing? Comment je le rendre? Comment je le classe? Alors, je me suis dit, j'ai fait comment je m'en sors de cette histoire-là, j'ai fait quelques recherches, et la sortie longue apparaît vraiment comme ce dogme de l'entraînement, mais tellement dogmatique que finalement, on ne le discute plus, en fait. On considère, ça fait 60 ans qu'on considère qu'elle est efficace, que tout le monde doit la faire, que puisque les champions l'ont fait, tout le monde doit la faire, mais finalement, ça vaudrait peut-être le coup de la discuter. Est-ce que la sortie longue est aussi indispensable qu'on le dit, ou en tout cas, est-ce que la sortie longue est utile ou est-ce que elle peut être contre-productive? Et c'est vraiment vraiment le sujet, ce qui m'intéressait aujourd'hui, parce que vous vous rendez compte les uns les autres quand vous courez qu'il y a des fois ça passe bien, des fois ça passe crème comme j'ai envie de dire, et puis des fois ça passe pas bien. Puis vous vous rendez compte quand même que de dire je vais aller courir 2 heures un dimanche ou un samedi, c'est long à placer dans l'emploi du temps, après je reviens, je suis crevé, je suis fatigué, etc., je me sens pas bien le reste de la journée, etc. Est-ce que vraiment c'est productif? Oui, c'est marqué dans mon plan, et puis je vois que les champions font ça, on me dit que les Kenyans, ils font tant de kilomètres, etc. Mais est-ce que pour nous, à notre niveau, c'est vraiment productif? Et c'est vraiment ça qui me pose question, vous voyez? C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-là, pour creuser un petit peu le sujet. L'idée, vraiment, c'est de se demander, est-ce que c'est un passage obligé? Et c'est quoi une sortie longue réussie? Vraiment, c'est l'idée de l'épisode. Et là, vraiment, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages après, parce que c'est un sujet à discussion. Moi, j'ai fait des recherches un petit peu pour voir ce que les uns et les autres en pensaient. Et vraiment, il y en a qui vont jurer par la sortie longue et par la sortie très très longue. Et puis, certains vont dire non, mais finalement, elle ne sert pas à grand-chose et on pourrait non pas l'éliminer, mais en tout cas l'adapter. Et c'est ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode-là, c'est que moi, mes sorties longues, notamment en moment de préparation, ne sont pas des sorties longues où je pars juste comme ça en me disant « tiens, je vais courir 2 heures et puis je reviens sans avoir de programme ». Non, elles incluent désormais un programme bien précis qui aide tout simplement à atteindre l'objectif. Et c'est ça qui est intéressant dans la sortie longue, c'est finalement de se demander qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette sortie longue pour qu'elle devienne plus intéressante. Mais avant de parler de tout ça, finalement, pourquoi est-ce que la sortie longue semble être un passage obligé? Et c'est là qu'il y a un rappel qui est important à faire, c'est que quelle que soit la distance préparée, on doit construire une base solide dans le domaine aérobie. En fait, l'aérobie, c'est tout simplement notre capacité à se mouvoir, avec l'air dont on dispose, à être capable de prendre de l'air, de l'oxygène, que notre corps soit capable de le traiter, de faire fonctionner nos muscles. C'est simplement ça, c'est notre capacité même à courir plusieurs minutes. Alors au début, c'est plusieurs minutes lentement, c'est même même pas des minutes complètes, hein, des fois. C'est rappelez-vous comme ce n'est pas simple, hein, cette histoire-là. Et puis on en a même parlé avec des invités, hein, Cécile Bertin qui disait bah je parcourais et puis je me rends compte au bout de quelques mètres que je n'y arrive pas. Même Johan Stuck a en parlé en disant que c'était très compliqué au départ. Et puis rappelez-vous vous au départ, hein, si vous vous êtes remis à la course, parce que si vous courez depuis très longtemps, vous en rappelez peut-être pas, mais si vous venez de vous remettre à la course, si vous remettez à la course depuis quelques temps, même courir la première minute, c'est quelque chose qui est difficile. Et en fait, eh ben, pour arriver à courir une minute, deux minutes, dix minutes, quinze minutes, une heure, ben, il y a des étapes à faire. Et en fait, c'est le développement de l'aérobie. Donc là, on parle même pas de vitesse, on parle juste de notre capacité à courir, notre capacité à se mouvoir, mouvoir notre corps dans l'air, j'ai envie de dire. C'est-à-dire en prenant de l'air, en prenant de l'oxygène, en faisant travailler nos muscles et en étant capable de travailler cette endurance, c'est-à-dire cette capacité à courir au départ, eh ben, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et puis passer ce fameux cap de l'heure, hein, vraiment ce cap de l'heure. Et je reviens même pas sur, après, l'endurance en mental, hein, à quelle vitesse on va courir, etc. J'en ai parlé dans l'épisode 60 de la semaine dernière, mais vraiment, au début, on travaille à vitesse lente, parce que, au départ, notre difficulté de départ, même, c'est d'arriver à commencer à courir. Donc, on va même pas chercher à faire de la vitesse, même si, souvent, on a tendance à partir trop vite, c'est ce qui explique qu'on n'arrive pas à courir longtemps, mais on doit courir plutôt lentement pour arriver à allonger la distance, et puis ensuite on va travailler sur de la vitesse. Mais pour arriver à faire ça, bon, bien sûr, il faut être capable, hein, de commencer à courir de plus en plus longtemps, parce que ça sert à rien de prendre un programme qui nous dit qu'il faut courir une demi-heure à telle ou telle vitesse, si on n'est pas capable de tenir ça facilement, hein, et vraiment facilement. Moi, c'est ce que je dis, c'est en étant capable de discuter, quoi, grosso modo. Courir une heure en discutant, donc en endurance mentale, ça vous permet ensuite de travailler plein de choses à côté, mais c'est une première étape. Et c'est vrai que dans cette étape là on se dit, bah, si je suis capable d'aller faire un footing tous les dimanches, je vais courir une heure tous les dimanches ou 1h30 tous les dimanches comme ça tranquillement, bah, ça va me permettre d'atteindre ensuite mes objectifs, pouvoir m'inscrire à des petites courses, etc. Mais en fait, c'est là où c'est pas si simple que ça, et c'est là où, en fait, la sortie longue, quelque part, il faut un petit peu la questionner, il faut un petit peu creuser le sujet. Déjà, on va rappeler les bénéfices de la sortie longue, hein, après, dans ce système aérobie, c'est que c'est une amélioration générale du système cardiovasculaire, avec une baisse de la fréquence cardiaque au repos, et donc pendant l'effort. Et donc, ce qui permet, hein, déjà de mieux récupérer, d'être mieux, de faire plus d'efforts, etc. Donc, on est vraiment sur un meilleur fonctionnement du corps, qui se traduit aussi par une meilleure utilisation de l'oxygène par les muscles. On développe mieux aussi les réseaux de distribution de l'oxygène, les mitochondries, tout ça. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait déjà des sujets là-dessus. Et puis, on a aussi une meilleure utilisation de nos réserves pendant l'effort, meilleure utilisation aussi de nos réserves. Alors là, on pourrait parler de lipides, on pourrait parler de tout un tas de choses qui sont un peu techniques, donc on va pas rentrer dans le sujet, mais on va dire que notre corps apprend et s'adapte, hein, dans l'entraînement. Je vous rappelle que l'entraînement, c'est permettre à notre corps de s'adapter à de nouveaux efforts. Donc on va lui infliger un effort, il va s'adapter pour être capable de reproduire cet effort là et donc il va apprendre à mieux utiliser le cœur, il va apprendre à mieux utiliser le système de distribution du sang, les cellules, l'oxygène, les réserves alimentaires que nous avons, nos petites réserves. Et c'est là où on se dit, bah, j'aimerais bien qu'il tape dans le gras plutôt que de taper dans je ne sais pas quoi. Voyez, il y a toutes ces notions là donc ça vient, hein, tout simplement de l'entraînement. Et on se dit que la sortie longue, forcément, si je vais courir 2 heures, je vais cramer du gras, etc. Je vais revenir plus fit, etc. Bon, si vous montez sur la balance, probablement vous serez plus léger à l'arrivée qu'au départ, mais il faut aussi se méfier que ce soit tout simplement pas de l'eau que vous ayez perdu, parce que on se déshydrate aussi beaucoup en courant. Donc c'est pas si simple que ça, toutes ces notions là d'entraînement. C'est pour ça que quand on creuse un petit peu, bon, ça, c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui se passe, hein, comme ça. Et puis il y a aussi une question psychologique, vraiment une question psychologique, c'est de se dire, si je dois courir par exemple un marathon, ça me rassure de me dire je vais courir des distances de plus en plus longues. Et pourquoi je ne cours pas un marathon à l'entraînement, c'est pour courir un marathon en course? C'est une question que l'on trouve, hein, que j'ai même lu dans des livres, etc., de dire, mais pourquoi est-ce que si je cours 5 km, je vais courir 5 km entraînement, si j'en fais 10, je vais en faire 10 entraînement, mais pourquoi quand j'arrive par exemple au marathon, on me dit qu'il faut pas courir un marathon à l'entraînement, que ça sert à rien, que ça engendre de la fatigue, etc. Et on dit, bah, moi ça me rassurerait d'arriver à courir un marathon, parce que je me dis courir un marathon à l'entraînement, bah, je serais capable de le faire en course. Donc donc on se dit, on va faire des distances de plus en plus longues. Alors, peut-être pas atteindre le marathon, mais on trouve des plans d'entraînement qui montent à 30 km. J'ai vu des plans d'entraînement qui font courir 32, 36 km à l'entraînement. Donc ça, on le trouve, donc on se dit, on se prépare mentalement. Mais finalement, est-ce que ces sorties ne deviennent pas contre-productives? Ou en tout cas, est-ce que elles n'engendrent pas plus de problèmes qu'elles n'apportent de bénéfices? Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire que là-dedans, en fait, c'est un petit peu, tout le monde a son sentiment dessus, tout le monde a son ressenti. Si vous êtes un coureur expérimenté, vous n'aurez pas le même ressenti que si vous êtes un coureur débutant. Mais le coureur débutant, lui, qui n'a pas de ressenti, ben, quand il regarde un petit peu les plans, quand on regarde un petit peu les magazines, quand on regarde les vidéos, quand on regarde les conseils, eh ben, on ne sait pas trop à qui se fier. On se dit, ben, finalement, je vais me fier aux meilleurs, parce que si ça marche pour les meilleurs, ça va forcément marcher pour moi. Et c'est là, en fait, où il y a un petit problème dans l'histoire. C'est-à-dire que ce que sont capables de faire les meilleurs, eh ben, ils sont capables de le faire parce que ils ont beaucoup fait d'entraînement, mais que nous, peut-être, si on appliquait les méthodes des meilleurs à nous, eh ben, tout simplement, on va finir par se casser. On va finir par se casser le moral, se casser le physique aussi, et la sortie longue peut faire partie de ce qui peut nous casser. C'est pour ça qu'en fait, dans cette histoire, il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, ça la dépend vraiment de nos profils, de nos objectifs. Si on prépare un ultra, courir 2 heures, et franchement, une petite sortie. Moi, je me rappelle au club, il y a des gens qui préparaient des courses autour de 130, 170 km. Bon, ils avaient des sorties longues du dimanche, c'était des marathons. Mais si vous préparez un 5 km ou un 10 km, c'est probablement assez inefficace d'allonger pendant 3 heures votre séance, et c'est générateur de fatigue potentielle, et finalement on sait même pas s'il y a vraiment un vrai bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'études disant qu'une sortie de 2h30 sera beaucoup plus efficace qu'une sortie de 1h15, hein, en fait, au niveau des bénéfices physiques que ça va apporter. Et c'est bien là la difficulté, en fait. C'est-à-dire que comme c'est érigé en dogme, on discute pas trop la sortie longue de son intérêt, mais quantifier ce qui est une sortie longue, à quel moment elle est efficace et à quel moment elle ne l'est pas, n'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas si simple parce que ce critère change en fonction de nos capacités. Si vous courez un semi-marathon ou un marathon à 15 km/h ou à 10 km/h, ce n'est franchement pas la même chose. Imaginez que vous ayez une sortie de 32 km dans votre programme. 32 km. Alors dites, ouais, c'est comme ça, ça fait une bonne sortie de préparation. En fait, c'est la sortie de 20 miles que vous allez trouver dans les programmes marathon américains. C'est, on va dire que c'est là où on va taper le mur. On va dire, voilà, autour des 32, il faut arriver à cette distance-là parce que comme ça, on va se préparer à l'approche du mur. Bon, elle va être faite à un peu plus de 2 heures pour un coureur qui est capable de courir un marathon à 15 ou 16 km/h, c'est-à-dire le coureur qui va faire le marathon en largement moins de 3 heures. Mais en fait, elle va prendre plus de 3 heures pour celui qui veut faire un marathon en 4 heures et plus. Et l'impact sur la fatigue n'est pas du tout le même, parce que entre courir 2 heures et courir 3 heures, l'impact sur le corps, l'impact sur la fatigue, c'est vraiment totalement différent, alors que la distance est exactement identique, puisque on vient de mettre 32 km dans le programme. Mais pour le coureur le moins rapide, l'effort sera supérieur, il sera même beaucoup plus violent. Courir 32 km pour un coureur qui court 40 km par semaine, c'est-à-dire qu'il ferait une séance, on va dire le mardi ou le mercredi, qui se fait un petit footing d'une heure, et qui va se faire le dimanche une séance de 32 km, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement épuisant, alors que ce sera beaucoup plus aisé pour celui qui fait 60, 80 ou 100 km par semaine. La sortie de 32 km, elle sera beaucoup plus simple à placer et beaucoup moins fatigante parce que dans son volume global, et ben finalement, elle représente beaucoup moins d'efforts. Et c'est ça qui est difficile, en fait, quand on regarde les plans, c'est que on voit des séances comme ça qui sont placées avec des kilométrages un petit peu théoriques, etc. C'est fait pour pratiquement tout le monde, hein, ou en tout cas on vous dit, bah, si vous voulez courir à telle allure, il faut faire ça et ça et ça, mais ça ne prend pas en compte notre passé, notre capacité d'entraînement, notre fatigue potentielle, et en fait c'est là où la sortie longue peut devenir dangereuse. Et j'ai bien dit dangereuse parce que les sorties longues ne sont pas sans danger, surtout quand on dépasse les 2h30 en fait. C'est là où on va se rendre compte qu'on a des courbatures, des lésions musculaires, on va dire à partir entre 2h et 2h30, hein, c'est là où douleurs articulaires, tendineuses, épuisement des réserves énergétiques, grande fatigue, le jour même, hein, c'est là où je vous disais, bah, peut-être vous avez ressenti qu'on fait des grandes sorties du week-end, vous revenez avec les jambes très raides, vous vous sentez fatigué, vous avez envie de faire une grosse sieste derrière, vous vous sentez très fatigué, et en fait c'est d'autant plus important pour les coureurs les moins entraînés. Et en fait, après réflexion, c'est ce qui m'a conduit à ma périostite pour la préparation de mon premier marathon, marathon qui devait se courir à quelques jours près le jour de mes 42 ans. Mon corps avait lâché à 2 semaines de l'échéance parce que l'enchaînement des sorties de 25-28 km qui était prévu dans le plan, et puis j'ai retrouvé le plan, c'est bien marqué, courir 28 kilomètres. C'est même marqué un jour courir 15 et le lendemain courir 25. Ça faisait des sorties de 2h30, plus de 2h30 à chaque fois. Et en fait, mon corps ne l'avait pas supporté. Donc là, on revient sur le stress mécanique, c'est-à-dire que la capacité que notre corps peut engendrer comme stress, hein, par le fait de la course, la répétition, etc. Et donc, en fait, moi, ça m'avait généré, c'était générateur en tout cas d'une partie de ma périostite. Il y avait bien sûr ma foulée, il y avait bien sûr ma position, comment je courais, etc. Il pouvait y avoir mes chaussures, il pouvait y avoir plein de choses. Mais l'ostéo me l'avait dit, il m'a dit la fatigue générée aussi par les plans d'entraînement, provoque aussi ce type de blessure. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les blessures? Il y a des lésions qui vont se créer, on va prendre des mauvais gestes. Avec la fatigue, on a une tendance aussi peut-être à s'avachir, prendre des mauvaises positions. Et si vous répétez ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va vraiment prendre une mauvaise position qui va se répéter, et donc là la répétition de gestes, de mauvais gestes avec la dégradation et la fatigue, ça nous conduit tout droit chez le kiné, ça nous conduit tout droit pour des blessures, ça nous conduit sur des inflammations, sur des tendinites, sur des choses comme ça, et en tout cas ça nous use mentalement et physiquement, alors que le but pour nous de courir, c'est d'être bien physiquement et mentalement. Donc finalement, ça va à l'inverse de ce qu'on recherche. C'est pour ça que on peut questionner la sortie longue, et qu'en tout cas, on ne doit pas la prendre comme étant quelque chose, un dogme incontournable qu'on ne doit absolument pas questionner. On doit se demander, est-ce que oui ou non, elle est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle est oui ou non intéressante pour mes objectifs? Et finalement, quelle serait sa durée idéale pour qu'elle me serve à quelque chose? Et donc, quand on rentre dans cette question, on va un petit peu voir l'endurance d'une autre manière, c'est-à-dire que travailler l'endurance fondamentale, c'est une chose, mais ce qui est aussi important, c'est de courir aux allures que vous envisagez. Et en fait, c'est là le but d'un plan d'entraînement, c'est-à-dire qu'un plan d'entraînement, c'est vous permettre d'atteindre un objectif que vous êtes fixé. Et en fait, c'est de vous dire que vous avez prévu, par exemple, de faire une course, que cette course vous voulez la faire en tant de temps, et donc que pour arriver à faire cette course en tant de temps, il va falloir courir à telle vitesse. Et donc le plan d'entraînement vous amène à être capable de courir à cette vitesse pendant le temps que vous avez prévu pour arriver à faire la distance que vous avez prévu. Et donc le plan d'entraînement, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter progressivement votre capacité à courir de plus en plus longtemps à l'allure cible, et c'est le but du plan d'entraînement, c'est de vous amener petit à petit à courir le jour de la course à l'allure cible pendant le temps prévu, pendant la distance prévue, parce que il vous a amené sur la progressivité. Et c'est là qu'en fait des sorties longues, par exemple de 2h30 à 9 km/h, n'auraient aucun intérêt pour préparer un marathon que vous souhaitez courir en 4h, c'est-à-dire à 10 km/h. En fait, vous allez courir moins vite que le temps prévu, vous allez courir moins longtemps que le temps prévu, parce que vous allez courir 2h30 au lieu de 4h, vous allez courir à 9 km/h au lieu de courir à 10 km/h, et en fait, vous allez avoir ni le temps, ni la distance, ni la vitesse. Et mentalement, ça va pas vous préparer à grand chose. Peut-être vous allez travailler un petit peu l'équipement, les réserves, etc., alimentaires, et encore même pas certain, parce que en courant plus vite que ce que vous êtes entraîné, votre corps va devoir puiser dans de nouvelles ressources. Et donc, vous allez générer finalement une seule chose, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue et probablement de la lassitude, en vous disant, ouais, c'était un petit peu chiant quand même d'aller courir 2h30 à cette vitesse-là, etc., me s'ennuyer, courir toujours à la même vitesse, etc. Et donc, c'est là où on arrive sur des gens qui me disent, oui, mais la course à pied, c'est chiant, en fait, c'est encore toujours la même allure, c'est pénible, c'est chiant, etc. Et en fait, la course à pied, ça peut être plein de jeux. Et notamment, on a des jeux d'allure, de vitesse, etc. Et la sortie longue, c'est là où on va arriver sur quelque chose de dire que, en fait, la sortie longue n'est pas quelque chose qui est chiant parce qu'on va partir courir 2h30 ou 3h toujours à la même vitesse, mais que dedans, on va pouvoir faire de la variation d'allure, et que la première variation d'allure que l'on doit faire, c'est de courir à l'allure que l'on vise en course, c'est-à-dire c'est entraîner son corps à être capable de courir à la fameuse allure qu'on veut courir en course. Et là, c'est tout l'intérêt de savoir à quelle allure vous envisagez de courir, même si votre objectif n'est que de finir votre 10 km, votre semi ou votre marathon. On l'a tous dit, oui, alors moi, pour mon premier marathon, pour mon premier semi, pour mon premier 10 km, ou mon premier trail, ce que j'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'arriver au bout. Voilà. Quand je me suis inscrit à mon premier trail, j'ai dit, mon objectif, moi, c'est d'arriver au bout. Quand j'ai m'entraîné pour le marathon, je disais, mon objectif, c'est de courir le marathon, d'arriver au bout, je serai content si j'arrive au bout, etc. Mais quand vous êtes face à votre montre, votre chrono, votre plan d'entraînement, vos baskets, il y a une question qui va se poser, c'est, oui, mais maintenant, à quelle vitesse je cours? Comment je fais pour m'entraîner? Et donc là, vous allez avoir besoin de quand même de réfléchir à quelle vitesse vous voulez faire cette fameuse course. C'est-à-dire que Si vous envisagez de courir un marathon, il faut fixer le temps que vous allez viser. Si par exemple vous voulez courir environ en 4 heures votre marathon, ça va donner une vitesse de 10,6 km/h, une allure cible de 5 minutes au kilomètre. Voilà, à peu près. Bon, si vous courez en 6 minutes au kilomètre, bien sûr votre marathon, vous allez courir en plus de 4 heures. Si vous courez en 5 minutes 40 au kilomètre, vous arrivez dans ce temps-là environ, autour des 4 heures de course, ça fait 10,6 km/h. Donc, à partir de là, eh ben, il va falloir vous dire que vos sorties longues, il va falloir inclure ce temps, cette vitesse-là, c'est 5 minutes 40 au kilomètre, pour être capable, tout simplement, de montrer au corps ce que c'est de courir à cette vitesse-là et de l'habituer à courir à cette vitesse-là. Et là, on arrive sur quelque chose qui s'appelle des sorties longues à allure spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sorties longues qui vont inclure des portions de plus en plus importantes de course à cette vitesse. Et vous pouvez réécouter l'épisode, par exemple, avec Johan Stug sur le fait de courir trop vite, mais aussi sur comment il place différentes allures dans ses séances, comment, en fait, les gens se rendent pas compte qu'il y a trois allures entre l'endurance pure et finalement l'allure marathon, qu'il y a des variations d'allure qui peuvent être faites et que il va commencer à partir peut-être à 10 ou 11 km/h, qu'il va finir à 14, parce que tout simplement il va travailler à des allures spécifiques. Et donc en fait c'est ce que vous retrouvez aussi dans certains plans d'entraînement qui vont vous dire vous allez faire des répétitions à votre allure marathon. Le but du jeu, on est bien de dire j'ai besoin de connaître mon allure spécifique que je vise pour m'entraîner à cette allure spécifique, et dans ma sortie longue finalement je vais inclure des portions de plus longue de cette allure spécifique pour montrer à mon corps, pour montrer finalement à votre cerveau aussi, qu'est-ce que c'est de courir à cette allure-là, et surtout de lui donner la capacité d'être capable de le faire. C'est-à-dire que tout simplement par l'entraînement, par le stress que ça va générer, par la fatigue que ça va générer, ça va lui permettre petit à petit de s'adapter, petit à petit de comprendre de ce que c'est, mais aussi de mémoriser cette fameuse allure pour être capable de courir beaucoup plus facilement à ces allures-là. L'autre point qui revient, ça serait de travailler aussi au temps d'effort et non à la distance. C'est ce que j'avais dit. Courir une distance de 32 km, si vous êtes un coureur qui court à 15 km/h ou un coureur qui court à 10 km/h, c'est pas du tout le même temps d'effort. Et en fait, le temps d'effort est très 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 important sur la fatigue, sur ce que ça génère, sur les lésions musculaires, etc. Mais aussi sur l'énergie que ça puise. Et donc, finalement, le coureur qui court à 16 km/h, il est beaucoup plus apte de courir 3 heures que le coureur qui court à 10 km/h et qui court très peu. Et c'est ça en fait, pour ça que y a une espèce de malentendu sur ces histoires de sortie. Quand on met une sortie en distance, le problème c'est qu'on va amener le coureur qui est finalement le moins aguerri à courir plus longtemps que le coureur très aguerri, alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que le coureur le moins aguerri devrait courir moins longtemps que le coureur très aguerri, tout simplement parce que il n'a pas la capacité de tenir l'effort que fait le coureur très aguerri. Alors, quel serait le temps qu'il faudrait courir? Alors, pour une durée optimale, on va dire, pour que ça apporte des bénéfices, mais qu'on n'a pas trop d'inconvénients, j'ai vu des temps 1h30, dans des discussions, j'ai vu autour de 2h, entre 1h30 et 2h, on va dire 1h30 à 2h, et dedans, dans ce temps, cette sortie longue d'1h30 à 2h, on va inclure dedans des portions de temps en vitesse vraiment spécifique qui vont être fractionnés pour habituer le corps à courir à cette vitesse. On va par exemple dire que l'on va viser, par exemple, on va courir 60 minutes en allure spécifique sur sa séance. Par exemple, on dit, je pars courir 1h30 de sortie longue. Dans cette sortie longue d'1h30, j'ai 60 minutes en allure spécifique. Et ben, ça veut dire qu'on va faire un temps d'échauffement, puis on va faire des fractions spécifiques à l'allure visée. Par exemple, on va faire 6 fois 10 minutes à 5 minutes 40 pour mon fameux objectif de courir le marathon en 4 heures, avec un petit temps de récupération entre chaque. Par exemple, au début, ça va être marcher 1 minute ou 1 minute 30 entre chaque, puis après, ça va être de courir lentement 1 minute 30 entre chaque. Et donc, on va arriver, alors là, bon, je vous donne, ça fait un petit peu plus d'1h30, la sortie comme ça, mais en fait, ça vous permet d'avoir une séance où vous avez un volume intéressant de course à l'allure spécifique et que vous avez de l'échauffement, que vous avez de la récupération, etc. Mais que vous passez pas 3 heures sur les chemins, vous passez pas 3 heures sur les routes à multiplier les impacts, etc. Donc vous avez une séance qui est quand même plus compacte, qui est plus facile aussi à placer dans l'agenda, mais qui sera beaucoup plus bénéfique parce que en fait elle vous entraîne vraiment à courir votre course à l'allure que vous avez prévue. Alors, je précise, vous n'avez pas besoin d'être à 5 minutes 40 pile poil. C'est-à-dire que vous pouvez courir à 5.38, à 5.42 ou 5.45. Bon, ne courez pas à 6 à 1 du kilomètre, passez pas de 5.20 à 6 parce que là, ça sert à rien du tout. Non, faut vraiment être autour des 5.40, mais vous n'avez pas besoin d'être à 5.40 pile poil tout le temps. Il y a des petites variations. Et de toute façon, en course, il va se passer quelque chose, c'est que il y a des moments ça va accélérer, il y a des moments ça va ralentir. C'est pour ça aussi que dans la sortie longue, ce qu'on va inclure petit à petit, quand on a bien mémorisé les allures, c'est de dire que bah, on va faire plutôt une tendance un peu fartlek. Dire bah il y a des moments, bah je vais rajouter une petite accélération. Il y a des moments, je vais peut-être un petit peu ralentir pour reprendre mon souffle. Il y a des moments, ça va peut-être qu'il y a des séries de petits virages, des choses comme ça, je vais peut-être les prendre plus vite. Tiens, je vais aller jusqu'à l'arbre en vitesse. Et puis vous avez même la technique de certains qui est notamment chez les Kenyans, j'ai vu quand j'avais lu ça, qui finissent par exemple, qui vont faire une sortie longue et qui à la fin vont faire le dernier kilomètre ou les deux derniers kilomètres à une vitesse beaucoup plus rapide, un petit peu façon finish, vous voyez, un petit peu comme votre finish de votre course, etc., qui travaille le finish. Moi j'aime bien faire ça aussi d'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que ça me rassure beaucoup plus, c'est-à-dire que quand je parcourir une heure quinze, vous voyez, dans cette langue-là, et que j'arrive à finir assez vite, j'aime bien faire un petit peu de vitesse, finir le dernier kilomètre un peu plus vite, et puis ensuite récupérer dans les dernières centaines de mètres. Et j'aime bien ça, parce que en fait, quand je vois que je suis capable de le faire, je me dis waouh, t'avais encore de la réserve, etc. C'est super intéressant, je trouve. Et donc, ça fait partie aussi, vous voyez, des variations que l'on peut faire et qui font que la sortie longue, c'est pas de se dire je pars 3 heures toujours à la même vitesse. Surtout si cette vitesse-là, alors si c'est la vitesse que vous visez en course, vous risquez de vous fatiguer plus. Et si c'est une vitesse qui est inférieure à la vitesse que vous visez en course, en fait, quelque part, elle vous sert pas à grand chose. Voilà. Et c'est vrai que la sortie longue, bah, vue par le travail sur des allures spécifiques, devient de plus en plus qualitative. Et donc finalement, elle n'a pas besoin d'être très longue, mais elle fait, pour qu'elle devienne efficace. Bon, à ce stade, je pense qu'on a bien vu maintenant un petit peu ma position sur la sortie longue et un petit peu la position que j'ai pu trouver à droite à gauche. On va dire surtout que la sortie longue doit être intégrée dans un programme plus global, hein. En fait, vous devriez envisager votre programme global, c'est-à-dire que pour limiter la fatigue, il y a vraiment, ce qui est vraiment important, c'est de faire attention au volume de cette sortie longue, hein, j'ai dit en temps et en distance, mais en fait, vous devez aussi la regarder par rapport à votre entraînement global. C'est-à-dire que, je reviens sur cette idée-là, si vous avez dans votre plan, si vous faites 40 km par semaine et que vous faites 8 plus 32, 32 le dimanche, elle va être fatigante, elle va être épuisante. Alors, il faudrait plutôt la limiter, par exemple, à votre temps d'entraînement global, de dire que elle va faire 25 ou 30% maximum de votre entraînement global. Alors, il y a des entraîneurs, par exemple, qui estiment qu'il faudrait courir environ 1,5 fois dans la semaine la distance visée dans la course. Par exemple, si vous visez un marathon, il faudrait courir environ 60 km par semaine pour le préparer, pour être bien, pour vraiment l'apprécier, pour le préparer dans des bonnes conditions. Dans ce cas-là, la sortie longue devrait faire entre 12, 15, on va dire 18 à 20 km maximum, vous voyez, pour si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps de travail en allure, etc. Mais elle ne devrait pas faire 30 ou 40 sur les 60, vous voyez, en fait, hein, parce que c'est là où vous allez engendrer de la fatigue. Et en fait, elle doit surtout être encadrée par d'autres séances, avec des séances, par exemple, d'allure fondamentale, d'endurance mentale, et des séances de vitesse. Parce que oui, même si vous préparez un marathon, des séances de vitesse sont importantes, parce que c'est aussi ces séances de vitesse, c'est-à-dire de courir plus rapidement que l'allure marathon, qui permettent aussi au corps de courir plus facilement en allure marathon. Mais c'est valable aussi pour du semi, c'est valable un petit peu pour tout. Hein. Même moi, en préparation marathon, par exemple, j'avais des séances de VMA à 105% de VMA, c'est-à-dire que c'est largement au-dessus de ce que de l'allure marathon, mais c'est en fait ce qui permet tout simplement de faire travailler le cœur, de le faire travailler à des allures plus rapides. C'est ce qui va permettre aussi, hein, de courir plus lentement. C'est-à-dire que on dit l'endurance mentale, c'est courir lentement pour courir plus longtemps et plus vite à terme. Mais courir vite, c'est aussi ce qui vous permet de courir plus lentement. Enfin, vous voyez un petit peu le principe, c'est-à-dire que il faut regarder l'entraînement dans sa globalité. Il faut pas se dire bon, bah je prépare un marathon, je vais courir toujours à l'allure marathon, ou alors je vais toujours courir doucement, etc. Il faut regarder les choses dans leur globalité. Mais c'est valable aussi si vous courez pour du semi-marathon, c'est valable aussi si vous faites du trail. Pour courir du trail, il va falloir varier les allures, parce que dans du trail, par exemple, il y a des moments sur un trail, moi j'ai été surpris la première fois, mais ça part comme des lapins, ça part très vite. Si vous laissez entraîner par l'allure des tout premiers, bon bah ça peut partir un petit peu vite, vous pouvez vous épuiser, puis il y a des moments ça va monter, donc vous allez vous dire bon là je vais marcher, mais il y a des moments ça va descendre, il y a des moments il y a des relances, vous essayez de vous accrocher peut-être à certaines personnes, vous allez vous rendre compte que les allures sont pas si simples que ça, et donc de pouvoir travailler sur des relances, de pouvoir travailler sur de l'accélération, de pouvoir travailler sur la capacité à monter, la capacité à accélérer, la capacité à tenir longtemps une même vitesse, par exemple sur des portions de plat, etc. C'est aussi super intéressant. Et donc c'est pour ça que l'entraînement c'est une globalité, c'est-à-dire que la sortie longue en elle-même, elle ne sert à rien si elle est toute seule. prise dans son coin comme ça, c'est pas elle qui amène tout simplement à préparer un objectif quel qu'il soit. Non, en fait, il faut qu'elle soit, qu'elle complète un entraînement qui est plus global. Et en fait, ce que j'avais constaté quand je suis passé de 3-4 séances par semaine pour, entre ma première préparation pour le marathon de Lyon, qui avait échoué, et ma préparation pour le marathon de Paris, où là, j'ai pu courir le marathon, c'est-à-dire que j'étais mieux préparé en faisant 4 séances, mais quand je regarde le volume global de mes semaines, j'ai pas couru beaucoup plus pour préparer le marathon de Paris en faisant 4 séances que ce que j'en faisais en 3 séances pour préparer le marathon de Lyon. La vraie différence, c'est qu'en fait, j'ai rajouté une séance d'endurance mentale, donc à vitesse lente, mais qui faisait 1 heure maximum, grosso modo, mais ce qui m'a permis aussi de diminuer mon temps de sortie longue du week-end, et donc, en fait, je débutais la semaine suivante moins fatigué, puisque j'avais pas la digestion de la sortie longue du week-end à passer, et des fois, quand je regardais mon journal d'entraînement, j'ai regardé encore ce matin pour voir, c'est marqué, j'ai encore les traces de la sortie du dimanche, le mercredi, vous voyez, quand j'ai couru, je dis, j'ai encore les traces de la sortie du dimanche, etc. Et en fait, c'était que ma sortie longue était trop longue, vous voyez, elle était trop fatigante et j'étais pas préparé pour faire ça. Et donc je me suis rendu compte qu'en faisant 4 séances par semaine, avec moins de volume par séance, eh ben j'étais bien mieux dans mes baskets qu'en faisant 3 séances avec une sortie longue. Et d'ailleurs, ça me ramène sur mon expérience du mois de juillet de courir tous les jours. J'ai fini le mois de juillet sans une grande fatigue, mais en fait en mettant plein de petites séances qui faisaient, certaines faisaient 3-4 km, certaines en fait 10, 15, jusqu'à 17 km, hein, donc là on était sur de la sortie longue, c'est vrai que les petites sorties de 7-8 km, mais multiplier des petites sorties de 7 ou 8 km, a permis d'avoir un plus gros volume sans avoir une grosse fatigue ni une grosse lassitude. Et en fait, c'est aussi ça, hein, l'entraînement, c'est-à-dire c'est d'arriver à mixer ces sorties là. Si vous ne faites que des sorties, si vous dites tous les dimanches je vais courir 2 heures, je pense, et si vous en revenez éreinté, je pense que vous n'allez pas courir très longtemps. Et c'est pour ça que la sortie longue en elle-même, il faut la discuter. Il faut, il n'y a pas de dogme comme ça. Il y a même des coureurs, des marathoniens médaillés olympiques, hein, j'avais vu quelque part, qui disaient qu'ils ne dépassaient pas 1h30 d'entraînement, parce que ils jugeaient que au-dessus, ça leur servait à rien, que ça leur générait plus de fatigue, que ça préparait pas mentalement, physiquement, quoi que ce soit pour la course, et donc ils n'avaient pas besoin de courir aussi longtemps pour préparer leur objectif. Alors 1h30 à eux, à leur vitesse, ça leur permet de faire une grande distance, bien sûr, quand on regarde un petit peu les choses, mais toujours est-il que y en a certains qui ont osé déboulonner la sortie longue, parce que la sortie longue en elle-même, elle peut être génératrice de problèmes, alors qu'elle devrait apporter des bénéfices. Et donc, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode, c'est de dire oui, elle est utile, mais la sortie trop longue peut être inutile ou trop fatigante, et cette durée va dépendre de votre niveau, de votre objectif. En tout cas, vraiment, en tout cas, hein, ce n'est pas de faire une sortie très longue à petite vitesse qui va vous aider vraiment à courir un semi-marathon, un 10 km ou un marathon, parce que au bout d'un certain temps de toujours courir et puis toujours courir tous les dimanches, toujours à la même allure, en fait vous allez rester dans la même capacité à courir tout le temps, mais vous n'allez pas progresser. C'est pas parce que vous allez enchaîner 10 semaines à courir toujours les dimanches, par exemple 2 heures tous les dimanches, toujours à la même allure, que vous allez par petit bonheur accélérer. Alors au début oui, parce que vous allez augmenter vos capacités à courir, mais il y a un moment donné où votre corps dit j'ai couru à cette allure là, il a intégré que c'est courir à cette allure là. Si le jour de la course vous avez envisagé de courir plus vite, ou si vous rendez, ou si vous avez envie, ou si vous aviez un objectif de courir plus vite, si vous l'avez jamais entraîné à courir à plus vite, il ne sera pas capable de le faire. Et c'est pour ça que la sortie longue en elle-même, pour la sortie longue, c'est mieux de lui rajouter de la vitesse spécifique. C'est ça qui va vous aider à atteindre vos objectifs, d'arriver à courir avec des temps que vous envisagez, comme vous l'envisagez, dans le temps que vous l'envisagez, et d'arriver à la fin avec le sourire et le bonheur de se dire « j'ai réussi à le faire », et vraiment de dire « j'ai réussi à le faire », même si vous dites au départ « mon objectif c'est de le finir », vous êtes obligé à un moment donné de vous dire quand même « mon objectif c'est de le finir, mais dans quel temps j'ai envie de le finir, dans quel temps j'envisage, et qu'est-ce que ça m'impose de travailler comme allure pour arriver à le finir dans des bonnes conditions et m'entraîner dans de bonnes conditions. » Voilà donc qui conclut cet épisode. J'espère que j'étais assez clair. En tout cas, c'est un sujet qui se discute, qui fait partie des choses qui doivent être discutées à mon avis. Hein. Quand on regarde les plans, ce matin j'ai repris les plans que j'ai pu collectionner, suivre, regarder dans les livres, etc. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de plans qui marquent des kilométrages, et j'ai vu d'autres plans qui marquent des temps de course. Moi, je vous conseille, c'est vrai, et je l'ai constaté, que c'est mieux de partir sur des temps de course. En tout cas, d'évaluer et arriver à évaluer vraiment le temps de à quel moment vous sentez que ça vous fait trop de fatigue, parce que ça sert à rien non plus d'aller dans des distances qui vous génèrent trop de fatigue. Regardez quels sont les temps que vous pouvez courir sans que ça génère trop de fatigue et regardez comment vous pouvez les optimiser. C'est aussi ça, hein, finalement, d'arriver à optimiser, parce qu'on dit oui, j'ai pas le temps, courir un marathon, il va falloir courir des heures, etc., faire ça, etc. Courir un semi-marathon, il faut des heures, j'ai pas le temps de courir autant. Mais c'est vrai que si on part du principe qu'il y a un plan marathon, que ça nous dit qu'il faut courir 32 km et qu'on sait que ça va nous prendre 3 heures, là on va dire waouh, je vais pas pouvoir le faire. Alors que si on nous dit dans le plan marathon, oh bah dimanche, vous pouvez aller courir 1h30 et puis un autre jour dans, et puis deux autres jours dans la semaine, aller courir 1 heure par exemple, là on va dire ah tiens, ça semble plus facile à placer. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de pas prendre le plan comme ça, tout de suite comme ça, mais de les regarder un petit peu, de les analyser, de regarder celui qui convient bien à notre capacité, bien entendu, mais aussi qui convient bien à notre emploi du temps, à notre capacité à le placer dans notre emploi du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a des plans qui, des fois, semblent très intéressants, très pertinents, mais qui sont faits pour des coureurs qui ne sont pas nous. Et des coureurs qui ne sont pas nous, c'est parce qu'ils ont plus d'expérimentation aussi, qu'ils ont plus de bagages, qu'ils ont plus de vitesse, qu'ils ont plus de kilométrage dans les pattes, ou des fois qu'ils ont plus de temps et que donc ils sont capables de faire des choses ou les faire différemment de ce que nous sommes capables de faire. Et en fait, je vous rappelle que nous, notre but à nous, hein, c'est bien d'arriver à courir, de prendre du plaisir à courir, mais aussi de durer, hein, vraiment de durer. C'est une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps d'ailleurs dans un message privé. Quelqu'un qui m'a envoyé un message privé qui m'a dit bah tiens, avec ton rythme d'entraînement, comment tu le fais, je pense que toi tu vas pouvoir courir longtemps. Et c'est vrai que c'est un de mes objectifs. Quand je regarde un petit peu, ce matin je faisais des recherches sur Alain Mimoun avant de, et quand je regarde, alors bien sûr Alain Mimoun était champion olympique, je sais pas combien de champions de France, fois de champion de France, mais il a couru jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours, hein, vraiment tous les jours, en courant. Et puis il se trouvait d'autres exemples avec des gens qui courent 5-10 km par jour, mais jusque très tard dans l'âge, etc. Et quand je vois ça, moi ça me fait rêver, vous voyez, de me dire tiens, est-ce qu'il me reste, combien de temps il me reste à courir, on le sait pas, soyons honnêtes, on le sait pas, mais me dire là, moi, à l'âge, à mes 43 ans, me dire, bah tiens, bientôt 44, ah bah tiens, s'il me restait 30 ans à courir ou 40 ans à courir, de voir qu'il y a des gens qui font la diagonale des fous à 72 ans, qui sont engagés sur le marathon des sables à plus de 70 ans, etc. Et ben, pour faire ça, il faut durer. Et pour durer, ben, il faut aussi savoir ménager son corps. Et ça veut dire que des fois, ben, peut-être que il faut aussi accepter, hein, tout simplement, de revoir un petit peu ce qui est dogmatique, ce qui semble dogmatique. Et c'est le but de cette sortie, de cet épisode sur la sortie longue, c'était d'un petit peu de questionner ça, d'amener à réfléchir. Et si vous avez vous des réflexions, si par exemple vous me dites, ben, moi, je me rends compte que je suis bien, je suis allé jusqu'à 2 heures, mais qu'au-dessus ça commence à coincer, je suis allé jusqu'à tant de ça, ou j'ai testé ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, venez en discuter dans le Hamster Running Club, parce que ça aidera aussi ceux qui vont préparer des objectifs. Je sais pas quel objectif on prépare en ce moment, parce que par rapport aux courses, entre ce qui est annulé, pas annulé, ce qui va être repoussé ou pas, bien sûr c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça fait avancer nos réflexions aux uns aux autres, et les conseils de ceux qui ont déjà testé, expérimenté, font beaucoup progresser ceux qui commencent, ceux qui veulent se lancer. Ce matin, je lisais un message de quelqu'un qui a mis dans son objectif de courir son premier marathon pour Paris 2021. Et ben oui, ben à un moment, il va falloir préparer ça. Il y a toujours la question de se dire, mais quel plan je prends? Et ben c'était aussi le but, hein, de ces discussions-là. Donc si vous avez une petite pierre à amener à l'édifice pour un petit peu discuter tout ça, n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. N'oubliez pas, parce que vous êtes là, vous avez sûrement apprécié donc cet épisode, hein, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, d'aller mettre une petite note sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert. Vous pouvez mettre une petite note, un petit commentaire. Vous avez vu, je l'ai lu au début de l'épisode pour vous rappeler aussi, pour vous montrer un petit peu comment les gens, les uns et les autres, on perçoit le podcast et comment on perçoit les uns et les autres la course à pied et les conseils que je peux vous donner. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours, tous vos messages. Bien sûr aussi, je remercie ceux qui financent ce podcast par Patreon. Je remercie ceux qui font partie de la Hamster Running Club et ceux qui m'encouragent, qui m'envoient aussi des petites informations, qui des fois c'est sur des chaussures aussi, sur des choses comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les coureurs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.